France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Bonjour à tous, voici le cinquième épisode de notre série estivale Le Carnaval de Monsieur Saint-Saëns qui vous accompagne tous les samedis de juillet et août pour commémorer le centième anniversaire de la mort de Camille Saint-Saëns, décédé à Alger le 16 décembre 1921 à l'âge de 86 ans. Saint-Saëns qui nous laisse de nombreuses partitions que nous avons déjà évoquées sous l'angle de la virtuosité, de l'orientalisme ou encore de l'opéra. Notre thème du jour sera Dieu et démon.
L'amour en cadence frappant une tombe avec son talon. L'amour à minuit joue un air de danse, zigue zigue zac sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Zik, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sous la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zik, zik, zak, l'amour continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danse s'énue, son danse la serre amoureusement. Dit-on, marquise ou baronne, et le verre galant, un pauvre charron, horreur, et voilà qu'elle s'abandonne, comme si le russe était un baron. Ziki, 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 quelle sarabande, quel cercle de mort se donne la main, ziki, ziki, zak, on voit dans la bande le roi gambadé auprès du vilain. Mais pst, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh, la belle nuit pour le pauvre monde. Et vive l'amour et l'égalité.
Henri Casalis était un médecin dont les patients s'appelaient Guy de Maupassant ou encore Paul Verlaine. Mais c'était aussi un poète de tendance symboliste, un ami de Mallarmé, qui a pris comme pseudonyme Jean Caselli ou encore Jean Lahore. Henri Casalis, surnommé l'hindou du Parnasse contemporain. Et ce Henri Casalis ou Jean Lahore sera mis en musique par plusieurs grands compositeurs comme Ernest Chausson, Henri Duparc, Reynaldo Hahne ou encore Camille Saint-Saëns, dont nous écoutions une danse macabre chantée par José Vandamme, qu'accompagnait au piano Jean-Philippe Collard, car oui, la danse macabre de Saint-Saëns, c'est d'abord cette mélodie composée zigue zigue zag en 1872 par Monsieur Saint-Saëns, et c'est 2 ans plus tard qu'à partir de cette mélodie, Saint-Saëns va concevoir l'une de ses partitions les plus célèbres, le poème symphonique Opus 40, qui est encore joué dans le monde entier, qui met en avant un xylophone évoquant les osselets de ses squelettes qui font la ronde au son d'un violon volontairement désaccordé avec ce qu'on appelle une scordatura. On baisse, admettons, la corde aiguë de mi, ce qui donne un ré dièse, et ce qui, joué avec la corde voisine de la, crée une macabre dissonance sur cet intervalle de quarte augmentée, jadis surnommé le diable en musique, diabolus in musica. Mais cela, c'est après les 12 coups de minuit qu'on entend sonner par la harpe et, dirigeant de son violon désaccordé l'Orchestre National de France, voici Laurine Mazel dans la danse macabre de Camille Saint-Saëns.
Thank you.
Le coq chante par la voix du hautbois et les squelettes regagnent leur tombeau. Avec son intense vibrato, c'est Laurine Mazel lui-même qui jouait ici du violon, tout en dirigeant l'Orchestre National de France dans la danse macabre Opus 40 de Camille Saint-Saëns que vous venez d'entendre sur France Musique, partition que le compositeur citera d'ailleurs au xylophone dans son Carnaval des animaux avec les fossiles qu'on écoutait lors de la première émission. Sachez également que Franz Liszt, le créateur officiel de ce genre du poème symphonique, Franz Liszt, ami de Saint-Saëns, avait fait de cette partition une transcription pour piano seul que je vous recommande. Alors c'est avec un Saint-Saëns diabolique et divin que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Lui qui pourtant ne croyait ni en Dieu ni en diable, en tout cas qui s'était fortement éloigné du catholicisme de son enfance, comme en témoignent certains textes de Saint-Saëns très anticléricaux. Il n'empêche que la musique sacrée est très présente dans l'œuvre et dans la vie de Saint-Saëns. Tout d'abord parce que Saint-Saëns a longtemps été organiste et même l'un des plus grands organistes de son temps. Ce fut au Conservatoire de Paris un brillant élève de François Benoît, l'organiste de Louis XVIII, de Charles X ou encore de Napoléon III. Saint-Saëns, à 18 ans, en 1853, est devenu organiste titulaire de l'église Saint-Merry. Et puis 4 ans plus tard, organiste à la Madeleine. Le tout Paris venait écouter Saint-Saëns et ses improvisations. Et même toute l'Europe avec Franz Liszt, qui admire en Saint-Saëns, je cite, « le premier organiste au monde ». Clara Schumann, Pablo de Sarasate, Anton Rubinstein, sans oublier Hector Berlioz, vont écouter les improvisations et les jeux d'orgue de Camille Saint-Saëns. Un contemporain, Herman Bonal, déclare « Bien que n'utilisant jamais le talon, il arrivait pourtant à un legato, une façon de lier les notes presque absolue. Dans ses improvisations, j'admirais la pureté merveilleuse de son style et une perfection qui égalait celle de ses compositions. Mais cette maîtrise, qu'avec les années je n'ai cessé d'apprécier, paraissait beaucoup plus le fait de la raison que celui de la sensibilité, toute émotion semblait intentionnellement exclue de cet art.
Thank you.
sur l'orgue Cavaillé-Coll de la Madeleine, que Saint-Saëns a joué pendant 20 ans et plus. C'était Vincent Genvrin dans la 7e improvisation opus 150 de Camille Saint-Saëns. En 1916-1917, le vieux Saint-Saëns se remémorait quelques improvisations qu'il avait données dans sa jeunesse à Saint-Méry, à la Madeleine ou même à Saint-Séverin. Et même si en 1877 il quitte son prestigieux poste d'organiste à la Madeleine, Saint-Saëns ne cessera pratiquement jamais de jouer de l'orgue à travers le monde. Nous y reviendrons. D'ailleurs, la musique d'orgue prend chez Saint-Saëns des aspects inattendus. C'est ainsi qu'en 1872, écrivant sa première sonate pour violoncelle et piano, dont nous avions écouté le premier mouvement dans la première émission de cette série, Saint-Saëns va puiser dans ses improvisations d'orgue pour écrire le deuxième mouvement de cette sonate violoncelle et piano en do mineur opus 32. Je cite Saint-Saëns, « L'andante de ma première sonate pour piano et violoncelle » et le résultat d'une improvisation sur l'orgue de Saint-Augustin. La première et la dernière page du morceau reproduisent textuellement ce que j'avais improvisé.
Thank you.
Le violoncelliste Roland Pidoux et le pianiste Jean Hubaud jouaient ici le mouvement central Andante Tranquillo de la sonate opus 32 de Camille Saint-Saëns, directement inspiré d'une improvisation à l'orgue.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns. François-Xavier Chemchak.
Alors certes, nous sommes là dans le domaine de la musique de chambre, auquel nous consacrerons d'ailleurs le prochain épisode de cette série, mais la musique sacrée n'est pas très loin. Cette musique sacrée, en voici un exemple strictement religieux. Saint-Saëns, comme je le disais, a débuté sa carrière d'organiste à Saint-Méry, dans l'église parisienne, mais il a également composé quelques partitions pour les fidèles de cette chic paroisse. C'est par exemple la messe solennelle, opus 4, dont Franz Liszt était un fervent admirateur. Je cite Franz Liszt, c'est une œuvre capitale, grande et belle que cette messe solennelle. Si bien que parmi les œuvres contemporaines de la même sorte, je n'en connais peut-être point d'aussi frappante par l'élévation de sentiments, le caractère religieux, le style soutenu, adéquat et vigoureux, et d'une maîtrise consommée. C'est comme une magnifique cathédrale gothique où Bach aurait sa chapelle, le Kyrie et la flèche de cette cathédrale. Roy Massey était au grand orgue de la cathédrale de Worcester, Paul Trepte au petit orgue avec le chœur de la cathédrale de Worcester, dirigé par Donald Hunt. C'était un extrait du Kyrie de la messe solennelle opus 4 de Camille Saint-Saëns, composé en 1857 pour l'église Saint-Merry à Paris. Une paroisse dont le curé fut tellement content de cette partition qu'il va inviter Saint-Saëns quelques mois plus tard pour des vacances en Italie, en passant par Rome, j'imagine. Ce qui ne va pas empêcher Saint-Saëns, juste après ses vacances italiennes, d'accepter en décembre 1857 le poste d'organiste dans une église encore plus chic, la Madeleine, où Saint-Saëns succède à Lefébure Vély et où il va tenter d'imposer la musique de Jean-Sébastien Bach tout en composant et tout en improvisant. « C'est là que j'ai connu les plus grandes joies de mon existence », écrira-t-il au sujet de ses 20 années passées à la Madeleine de 1857 à 1877, une joie radieuse, angélique, qu'on entend notamment dans son oratorio de Noël, opus 12. L'orchestre Les Favorites, ainsi que trois chanteurs de l'ensemble vocal de Rastatt, étaient dirigés par Holger Speck. C'était le Tecum Principium, un extrait du psaume 110 que Camille Saint-Saëns a ainsi mis en musique au sein de son oratorio de Noël, opus 12. Alors cette émission est intitulée « Dieu et démon ». Car si Saint-Saëns a maintes fois chanté « le Dieu des Juifs et des Chrétiens », il s'est également plusieurs fois inspiré du panthéon mythologique des dieux gréco-romains, comme dans ce poème symphonique « Le Rouet d'Omphale », composé en 1871 pour inaugurer la Société Nationale de Musique, qu'il venait de former pour promouvoir la musique française et freiner quelque peu l'expansionnisme germanique. C'est donc en héritier du monde latin que Saint-Saëns va puiser dans ce patrimoine romain en évoquant le dieu de la force Hercule, qui est ici soumis comme un esclave au pied de la belle Omphale qui joue de son rouet comme elle joue de ses charmes. Le sujet est la séduction féminine, nous dit Saint-Saëns, la lutte triomphante de la faiblesse contre la force. Le rouet n'est qu'un prétexte, choisi seulement au point de vue du rythme et de l'allure générale du morceau. Les personnes que la recherche des détails pourrait intéresser y verront tour à tour Hercule gémissant dans les liens qu'il ne peut briser et Omphale raillant les vains efforts du héros.
Thank you.
1985, Seiji Ozawa dirigeait l'Orchestre National de France dans le Rouet d'Omphale, poème symphonique opus 31 de Camille Saint-Saëns. Voilà une partition que Saint-Saëns a dédiée à la compositrice Augusta Holmès, dont Henri Casalis, le poète de la danse macabre, était tombé amoureux, tout comme Camille Saint-Saëns, qui avait vainement demandé en mariage Augusta Holmès. C'est probablement lui-même qui se dépeint en Hercule au pied d'Omphale. Saint-Saëns écrira deux autres poèmes symphoniques d'inspiration mythologique, Phaéton et puis La jeunesse d'Hercule.
C'est l'été sur France Musique. Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Alors après cette embardée dans le forum, revenons au Vatican, en quelque sorte, avec une nouvelle partition d'inspiration biblique, c'est le Déluge, opus 45. Saint-Saëns a composé cet oratorio juste après ses poèmes symphoniques en 1875. Le Déluge sur un livret de Louis Gallet, dont nous avons déjà parlé dans la précédente émission sur l'opéra, car c'est à Louis Gallet que Saint-Saëns doit les livrets de La Princesse Jaune, d'Étienne Marcel, de Proserpine, Ascanio ou encore Déjanire. Alors, il est évidemment question dans cette œuvre de l'Arche de Noé, dans cette partition qui a été créée au Théâtre du Châtelet en 1876, sous la direction d'Édouard Colonne, partition dont le prélude a obtenu un tel succès qu'il va peu à peu s'inscrire au répertoire des grands violonistes, comme Jacques Thibault. Vous entendrez ces langoureuses glissades qui nous rappellent une autre époque, un autre goût, voyage dans le temps, au son d'un des plus beaux violons qui fut, celui de Jacques Thibault sur France Musique. 29 mai 1929, salle Pleyel. Jacques Thibault était accompagné par le pianiste Georges Delaunay dans cette transcription du prélude du Déluge de Camille Saint-Saëns, oratorio de 1875, qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de son auteur, qui a trouvé par hasard dans une vieille Bible ces mots qui vont le laisser songeur. Et Dieu se repentit d'avoir créé le monde. Et Dieu se repentit d'avoir créé le monde. Fin de citation. Voilà la phrase qui a marqué Saint-Saëns et qui l'a déterminé à écrire cet oratorio. Comme je le disais, le public de 1876 avait apprécié le prélude et son solo de violon. Mais le passage du Déluge en lui-même allait déchaîner un déluge de protestations, de sifflets d'un côté et puis d'applaudissements de l'autre. En cette année de la création du Ring, 1876, du Ring de Wagner, Saint-Saëns a été accusé de wagnérisme, autrement dit le démon musical entrait dans la Bible. l'arche et le déluge. C'était un extrait de cet oratorio opus 45 de Camille Saint-Saëns, Le déluge, sur un poème biblique de Louis Gallet, avec ici le chœur régional d'Île-de-France et l'ONDIF, l'orchestre national d'Île-de-France, dirigé en 1990 par Jacques Mercier. Le Requiem de Camille Saint-Saëns, injustement négligé, est peut-être l'œuvre la plus imaginative, la plus délicate et la plus parfaite de son auteur qui, plus que jamais, trouve un équilibre classique entre la forme et l'expression, l'innovation et la tradition, le style savant et l'agrément immédiat. Voilà ce qu'écrit Jacques Bonnor dans une biographie de Saint-Saëns parue en 2010 chez Actes Sud Classica, saluant ainsi l'opus 54 de notre héros, le Requiem de Saint-Saëns. Saint-Saëns qui recevait en 1877 deux cadeaux du ciel. Le premier, tardif certes, mais quand même, c'était la création à Weimar de son opéra Samson et Dalila, objet de notre troisième émission. Et le second cadeau était sonnant et trébuchant, pas moins de 100 000 francs or que Camille Saint-Saëns recevait cette année-là par testament du directeur général des Postes, qui lui demandait en contrepartie l'écriture d'un requiem. Alors les ayants droit de M. Albert Libon ont dû le trouver assez timbré, ce directeur des Postes, mais Saint-Saëns, lui, a profité de cette aubaine financière pour démissionner de son poste d'organiste à la Madeleine, qu'il occupait depuis 20 ans. Quant au requiem, en voici un extrait sur France Musique.
Thank you.
C'est le Madrigal de Paris et les jeunes solistes de Boulogne, dirigés par Pierre Calmelet, qu'on vient d'entendre dans « L'Agnus Dei » du Requiem de Camille Saint-Saëns, partition créée le 22 mai 1878. Cruelle et même atroce ironie du sort, 6 jours après la création de cette messe des morts, son fils aîné, André Saint-Saëns, petit garçon de 2 ans et demi, se tue en tombant du 4e étage de l'appartement familial rue Monsieur le Prince à Paris. À peine 2 mois plus tard, le 7 juillet, il sera rejoint dans la tombe par son jeune frère Jean-François, bébé de 6 mois, qui meurt d'une fluxion de poitrine. Cette double tragédie va définitivement séparer le couple Saint-Saëns, même si le compositeur assurera jusqu'au bout la subsistance de son épouse.
Le carnaval de Monsieur Saint-Saëns, François-Xavier Chemchak.
Alors revenons à l'orgue, l'instrument qui, avec le piano, a d'abord fait connaître Saint-Saëns au grand public. Comme je le disais tout à l'heure, Saint-Saëns à la Madeleine avait voulu réhabiliter l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, ce qui n'avait pas toujours été très bien accueilli par les paroissiens qui trouvaient cette musique trop vieillotte, trop austère. Mais Saint-Saëns a non seulement tenu tête, mais il a lui aussi composé des préludes et fugues. Bien après son mandat, même à la Madeleine, voici le 3e prélude et fugue de Camille Saint-Saëns par Ben van Osten, justement jouant l'orgue de la Madeleine. C'est en 2012, sur l'orgue Cavaillé-Coll de la Madeleine, dont Saint-Saëns fut titulaire pendant 20 ans, c'est en 2012 que Ben van Osten avait ainsi enregistré le prélude des fugues opus 109 numéro 3 en do majeur de Camille Saint-Saëns. Bien sûr, lorsqu'on évoque l'orgue de Saint-Saëns, on passe forcément par sa troisième et dernière symphonie, l'opus 78 en do mineur, la symphonie dite avec orgue, que Saint-Saëns a conçue dans les années 1885-86, au moment de la mort de Franz Liszt, ami fidèle à qui cette partition est dédiée, une partition toujours très populaire à travers le monde, malgré le sarcasme d'Olivier Messiaen, lui-même grand organiste et grand compositeur. Comment peut-on écrire si bien une musique aussi mauvaise? Demandait Messiaen au sujet de cette troisième symphonie de Saint-Saëns. Il n'empêche que cette partition est toujours programmée et très appréciée et qu'on l'entend à plusieurs reprises au cinéma, que ce soit dans le savoureux Babe le cochon ou dans Song of Song de Terrence Malick. Et nous retrouvons pour son final l'Orchestre National de France dirigé par Seiji Ozawa avec les orgues de la cathédrale de Chartres joués par Philippe Lefebvre. Le final maestoso de la troisième symphonie opus 78 de Camille Saint-Saëns, Philippe Lefebvre à l'orgue de la cathédrale de Chartres avec l'Orchestre National de France dirigé par Seiji Ozawa. J'ai donné là tout ce que je pouvais donner, dira Saint-Saëns au sujet de cette partition qui cite dans ce final le Dies Irae, la prière des morts médiévales. Alors voici un autre aspect de la spiritualité de Saint-Saëns dans cette série d'émissions, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns sur France Musique. Un Saint-Saëns certes fort peu religieux, mais dont l'œuvre est parsemée de références à l'Église, aux Saintes Écritures, aux fêtes, comme cette mélodie extraite du recueil « La cendre rouge » sur des poèmes d'un certain Georges Daucois, mélodie de 1914 que Saint-Saëns a dédiée à son élève Gabriel Fauré, et dont voici la cinquième intitulée « Pâques », chantée par Tassis Christoganis avec Jeff Cohen au piano.
Pâques, Pâques, joie extrême, le carême est fini. Le poissonnier ferme faute de pratique sa boutique et va chez le tavernier. Pâques, Pâques, ripouvrame, garde rame, les cloches, clochant, clochant, sont à beau ciel sonné. Pâques, l'exquise aventure, la nature reprend tous ses falbalas. Dans 15 jours à peine, quelle aubaine, nous cueillerons du lilas. Arrive tout à vite, et mais vite, pauvre âme, ton habit neuf. Sors, et pour ta douce lettre, fais en plainte chez le confiseur de neuf. Et pour cette sucrerie, la chérie te donnera son baiser. Et puis, à l'état pas souple, heureux couple, dans les bois vous amusez. Le soleil comme un baudrier là-haut brille, le maire siffle gaiement. Ouvre homme avec ta jolie chante, oublie tes soucis.
Tassis Christoyanis était accompagné par Jeff Cohen au piano. C'était Pâques, un extrait de La cendre rouge de Camille Saint-Saëns. Merci à Céline Parfenoff, Martine Moni et Éric Carrère. La semaine prochaine, le carnaval de Monsieur Saint-Saëns sera consacré à la musique de chambre.
À réécouter sur francemusique.fr.